15h à Kinshasa, 16h à l'est du pays.
Radio Kapi.
Le journal Grâce Hamzati.
À la une de l'actualité, le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'ouvre ce vendredi à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est la première ministre Judith Suminwa qui représente le président Félix Tshisekedi à cette réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui abordera la situation sécuritaire en RDC. La responsable de l'UNICEF en RDC s'est dit préoccupée par les violences commises contre les femmes et les enfants au cours des deux dernières semaines dans l'est du pays. Catherine Russell exhorte les parties au conflit à cesser et à empêcher sans délai les violations graves des droits des enfants. Des précisions dans quelques instants. Notre invité est le professeur Jean-Pierre Ilbodo, ancien représentant de l'UNESCO en RDC et enseignant des cours sur la pratique de la radio. Il revient sur la journée mondiale de la radio célébrée ce jeudi 13 février sous le thème « Radio et changement climatique ». Voilà tout pour le sommaire. Avant d'aller plus loin, sachez qu'en ces débuts d'après-midi de ce vendredi, bien entendu, des sources locales indiquent que l'aéroport et le centre commercial de Kavumu au sud Kivu seraient passés sous le contrôle du M23. Selon nos informations, les rebelles, accompagnés de leurs alliés présumés des RDF, ont fait leur entrée dans le territoire de Kabare tôt ce matin depuis la cité de Kabamba, située dans le groupement d'Irambi-Katana. Cette avancée intervient après une résistance acharnée des FARDC hier à Calais. Nos sources sur place rapportent qu'aucune confrontation majeure n'a été observée entre Katana Centre et Kavumu, suggérant une progression des rebelles sans affrontement direct sur cet axe. Par ailleurs, toutes nos tentatives pour obtenir des informations auprès des autorités militaires du camp des Nyamunyuni, situés aux abords de l'aéroport de Kavumu, sont restées infructueuses jusqu'à présent. Pendant ce temps, c'est même vendredi, en marge de la conférence de Munich en Allemagne sur la sécurité, le chef de l'État a reçu Richard Grenell, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, en charge des missions spécifiques. Le président Félix Tshisekedi s'est réjoui de leurs échanges constructifs sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac, indiquent nos sources. Mesdames et messieurs, bonjour. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Elle représente le président de la République à la réunion du Conseil des paix et des sécurités de l'Union africaine, qui se penchera sur la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Ce conseil, qui débute ce soir, revêt une importance majeure, alors que la situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint des niveaux tragiques. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
C'est dans ce contexte difficile que Judith Suminwa se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État pour mettre en exergue les attentes précises de son pays. Selon une dépêche de la primature, la RDC va exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises de son territoire, dénoncer des violations de son intégrité territoriale et insister sur l'instauration d'un cessez-le-feu durable. La chef du gouvernement devra aussi rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et des milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. La situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire en RDC s'est détériorée ces derniers mois, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les M23 ont occupé la ville de Goma et certaines localités. L'escalade de la violence depuis le début de l'année 2025 a forcé le déplacement de plus de 400 000 personnes, provoquant des milliers de morts et des violations des droits humains. Les responsabilités des nations devront quitter le statut des simples promesses pour se muer en actions concrètes, car l'avenir de la RDC, indique la primature, et partant de la sous-région des Grands Lacs, dépend de cet engagement commun.
Blaise Makassi sur Radio Kapi. L'attaque du M23 soutenue par l'armée rwandaise à Goma a mis à rude épreuve le système sanitaire congolais. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de la Santé Roger Kamba au cours d'une conférence de presse animée ici à Kinshasa. Selon lui, 458 corps ont été enterrés en 5 jours alors que 939 sont encore dans les morgues. L'inhumation des victimes est compliquée par la paralysie de l'administration locale. Il dénonce également le fait que des infrastructures sanitaires soient ciblées, notamment l'attaque des 3 centres de traitement de la variole des singes. Roger Kamba revient sur les défis auxquels font face les professionnels de la santé à Goma. Il est dit dans cet extrait que nous propose Blaise Makassi.
Un défi majeur que nous avons, c'est les prestataires, les médecins qui peuvent opérer, qui peuvent travailler là-bas. Et donc, la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements, pour le personnel, soit garanti. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène, parce que nous avons déjà, malheureusement, le choléra qui a commencé. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Donc, en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés. Rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 le total. Et donc, la situation reste préoccupante.
Entre-temps, à Benio Nord-Kivu, toutes les activités sont restées paralysées ce vendredi. Les habitants ont répondu ainsi à l'appel de la synergie locale des mouvements citoyens et des groupes de pression pour une journée sans activité. C'est pour dénoncer non seulement l'agression de la RDC par le Rwanda, mais aussi protester contre le meurtre à Goma d'un enfant du terroir, à savoir l'artiste et musicien Idengo Delcat. Un dispositif sécuritaire important a été mis en place dans la ville. C'est ce que nous dit Marc Emaro Fimbo depuis Beni.
Ce vendredi, toutes les activités sont suspendues à Beni. Boutiques, maisons de commerce et banques sont restées fermées. Plusieurs établissements scolaires ont également fermé leurs portes et les parents ont gardé leurs enfants à la maison. La veille, la synergie des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni avait appelé à une journée ville morte pour dénoncer l'agression de la RDC par les Rwanda à travers le M23. Ils ont également demandé au FRDC d'élancer des offensives contre ces rebelles afin de reconquérir les entités occupées. Jeudi soir, une manifestation spontanée a été organisée par des jeunes pour protester contre l'assassinat de l'artiste musicien Idengo Delcat à Goma. Des pneus ont été brûlés et des étalages des revendeurs de carburant ainsi que des cabines de vente de crédits cellulaires situées le long des routes ont été endommagés. Des coups de feu ont même résonné en soirée lors des altercations entre des jeunes manifestants et les forces de sécurité qui tentaient de rétablir l'ordre. Le maire de la ville de Beni a appelé les jeunes à rester calmes et à éviter toute forme de vandalisme qui pourrait perturber les activités socio-économiques de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Notez que cet assassinat de l'artiste Katembo Vinywasiki Delphin, connu sous le nom de Delcat Idengo, suscite de vives réactions au niveau de Goma, connu pour ses positions trop critiques à l'endroit de la gouvernance politique du pays, mais aussi des autorités depuis quelques années. Ces jeunes d'une vingtaine révolus a été abattu à la mi-journée de ce jeudi dans la parcelle voisine de son domicile au village Ngangi 3, groupement Munigi, territoire de Nyiragongo. Mais quelles sont les réactions à Goma et quel a été son parcours en tant que révolutionnaire? Sifa Maguru.
C'est un extrait sonore d'une chanson de nombreuses productions de cet artiste intitulé Ami de la liberté, tout comme politicien et d'autres. Son assassinat intervient après sa toute dernière chanson, Libellé, Bunduki za Kwetu, qui venait de paraître il y a quelques jours sur la toile. Dans ce titre, l'artiste dénonce la guerre et s'attaque directement aux rebelles en disant, je cite, Jambo Avamizi, Mumetufanya Wakimbizi, Najua Mutaishi Aha. Entendez, bonjour les agresseurs, vous avez fait de nous des déplacés. Je sais que vous avez peur de nous et vous finirez dans cette ville. Fin des citations. Pour l'instant, les circonstances de sa mort ainsi que l'endroit où repose son corps ne sont pour le moment pas connues. Pour autant, plusieurs versions circulent. Pour rappel, cet artiste a plusieurs fois été emprisonné et condamné par la justice pour ses positions délicates. Delcato avait bénéficié de la grâce présidentielle avant la tenue des élections du 20 décembre, avant d'être arrêté et condamné à nouveau. Il a quitté la prison centrale de Muzenze le 27 janvier lors de l'évasion massive de la prison.
Comme annoncé au sommaire, la directrice générale de l'UNICEF est préoccupée par les violences commises contre les femmes et les enfants au cours des deux dernières semaines dans l'est de la RDC. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, ces hauts cadres onusiens révèlent que les violences survenues entre le 27 janvier et le 2 février en cours ont engendré des dégâts considérables. Le nombre des victimes des violences sexuelles accueillies dans 42 centres de santé a quintuplé. N'est-ce pas, Ronéline Tibonera?
Catherine Russell se base sur les données fournies par ses partenaires. Elle met en exergue des violations commises contre les femmes et les enfants par les belligérants, notamment par des viols et d'autres formes de violences sexuelles. Les exactions atteignent des niveaux jamais connus ces dernières années. Conséquence, les structures médicales sont incapables à assurer la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles en raison du manque de médicaments pour éviter la contamination au VIH. Je suis extrêmement préoccupé par l'intensification de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo et par les conséquences de cette situation sur les enfants et les familles, dont le Provence du Nord Kivu et du Sud Kivu, indique la directrice de l'UNICEF. De plus, les zones rurales font l'objet d'attaques et de bombardements. Les déplacés ont été contraints de quitter les camps. La situation s'est aggravée en raison du recrutement des enfants par les milices locales. L'UNICEF invite fermement les acteurs au conflit à mettre un terme à ces pratiques. Le parti au conflit doit cesser et empêcher sans délai le viol grave des droits des enfants et prendre de mesures concrètes pour protéger les civils et les infrastructures vitales conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, indiquent les documents. Au cours des deux dernières semaines, l'UNICEF annonce avoir recensé plus de 1100 enfants non accompagnés dans les Kivu, un chiffre qui risque d'être revu à la hausse.
Merci à vous, Ronelli Ntibunira. Par ailleurs, les prestataires des soins de santé du centre de traitement des Mpox installé à l'hôpital général de référence Macky Sall Kisangani sont mécontents. En cause, le non-paiement de leurs primes de prestations de services. Le projet des MSF qui assurait leur prise en charge est arrivé à terme depuis décembre dernier. Le nouveau projet mis en œuvre par l'UNICEF ne prend en charge que l'aspect nutritionnel des malades ainsi que de leurs gardes. Le personnel soignant s'est dit abandonné à son triste sort. Le point à Kisangani avec Jacques Mkongole.
La prime de service offerte par MSF aux prestataires des soins a pris fin en décembre dernier, période de l'expiration du projet de cette ONG internationale sanitaire dans ce centre de traitement. Les prestataires des soins ne savent plus comment survivre, d'où ce cri d'alarme de l'un d'eux.
Les personnels sont démotivés, c'est comme si nous sommes marginalisés, nous sommes délaissés. Nous demandons que les autorités puissent venir en aide, surtout pour ceux qui travaillent, parce que nous sommes exposés.
Le chargé des opérations pour la réponse des épidémies sanitaires à la Division provinciale de la santé les appelle au calme, puisque selon le docteur Franck Mébois, les démarches sont en cours auprès d'autres partenaires.
Nous sommes en train de frapper chez les partenaires s'ils peuvent nous appuyer par rapport à ça. Il y a des lueurs d'espoir par rapport à la prise en charge des prestataires. Qu'ils gardent leur calme, ce sont des démarches qu'on doit entreprendre et ça ne peut pas prendre un jour, deux jours, ça va prendre toujours des mois.
Sachez que ce centre de traitement des maladies à Mpox accueille actuellement une centaine de malades. Depuis 4 mois, il a enregistré 5 décès. Le dernier cas date de ce vendredi 14 février. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
15h12 à Kinshasa, ce journal se poursuit. La Direction générale des impôts informe les employeurs rédevables de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel versé au personnel expatrié IRE qu'ils sont tenus de souscrire au plus tard le 15 février de chaque année une déclaration récapitulative annuelle de l'IPR et de l'IR reprenant tous les éléments imposables versés au cours de l'année 2024. Le complément d'impôt éventuel dégagé dans cette déclaration doit être acquitté au moment du dépôt de celle-ci. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les employeurs sont invités à souscrire à la déclaration au plus tard lundi 17 février. Pourquoi cette démarche est-elle importante pour l'administration fiscale et pour les employeurs alors que chaque mois, ces derniers déclarent et payent leurs impôts? Mac Makadi, chef de bureau à la division des communications de la DGI, répond à Jocelyne Moussa Oponde.
Chaque mois, il est fait. Mais la loi a voulu aussi qu'au 15 février de l'année qui suit, il puisse souscrire une déclaration récapitulative. La déclaration récapitulative va amener l'employeur à pouvoir récapituler tout ce qu'il avait fait au mois par mois. Ça peut arriver que pendant le mois, il avait eu à souscrire une déclaration minorée et que lui-même trouve qu'il y a un supplément que je devais payer au cours d'un mois. C'est lors de la souscription de la déclaration récapitulative au 15 février que la loi a donné la latitude à l'employeur de pouvoir apporter les correctifs. Lorsqu'il vient souscrire la déclaration récapitulative, par ricochet, il profite de cette déclaration récapitulative pour s'acquitter d'un supplément éventuel que lui-même aurait constaté.
Revenons sur la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Vous le savez, le thème de cette année est la radio et le changement climatique. À cette occasion, la Fédération des radios de proximité du Congo a organisé hier une activité de sensibilisation du public et des médias sur l'importance de la radio dans les processus du changement climatique. Cette journée, bien entendu, vise notamment à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information axée sur les questions liées au climat. Moudoumbi Benjamin et Ben Tchoukouta étaient présents à cette activité pour Radio Kapi. Voici leur compte rendu.
La radio étant un média de masse, de socialisation et d'information, intervient dans les processus de sensibilisation au changement climatique et ses effets néfastes dans le monde. Établissant ainsi un rapport convergent entre la radio et les changements climatiques, le professeur François Elika nous en dit plus.
Le rapport est considérable. La radio est un instrument, un vecteur important de diffusion de l'information, de sensibilisation, d'alerte et de dénonciation. Pratique, c'est que la radio mobilise l'opinion pour qu'elle adopte des comportements conséquents qui sont susceptibles de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.
Dans ses dires, le secrétaire permanent de la Fédération des radios de proximité renchérit sur la contribution de la radio dans les processus de la lutte contre les changements climatiques en termes de conséquences et établit ainsi une nuance considérable des radios changement climatique à l'ère numérique. Jean-Claude Lumissa.
Le changement climatique comme le projet dans lequel tous nous nous engageons, numérique comme un auxiliaire pour essayer de prolonger, assurer l'interactivité entre les populations concernées par la lutte contre le changement climatique.
Sachez que c'est depuis le 14 février 2013 que l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement approuvé la proclamation et adopté à son tour, lors de sa 67e session, une résolution proclamant officiellement le 13 février Journée mondiale de la radio.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Après les anomalies décelées par la Cour des comptes dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 sous l'ex-président Macky Sall, les nouvelles autorités annoncent l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur des possibles délits financiers des responsables de l'ancien régime par des machinations politiques.
L'invité.
Nous l'avons dit, le monde a célébré ce 13 février la journée dédiée à la radio sous le thème « Radio et changement climatique ». Ancien représentant de l'UNESCO en RDC et enseignant des cours sur la pratique des radios, le professeur Jean-Pierre Ildoubo souligne qu'avec l'apport des digitales, les praticiens de la radio doivent se former et se renouveler pour s'adapter à la mutation. Il s'entretient avec François Kadima.
Professeur Jean-Pierre Ildoubo, bonjour.
Bonjour.
Quel rôle la radio joue dans ce monde en mutation?
Disons que la radio a un rôle crucial. C'est un agent important de sensibilisation et d'information sur le changement climatique et les questions environnementales. Parce que, voyez-vous, on a trop sous-estimé la question des gaz à effet de serre. On a sous-estimé toute la pollution que l'homme fait, la déforestation. Et aujourd'hui, les températures sont montées. Dans le monde, on est dans une situation tellement grave. Les températures sont tellement montées qu'on a des inondations de gauche à droite, chaque année, même en Europe. Les glaciers sont en train de fondre, la mer est en train de monter, de ravager même des villages, et des feux de brousse partout, des incendies. Alors, vous savez, la Californie, tout ça, c'est des questions qu'on aurait dû régler depuis. Mais quel est l'outil le plus accessible, le moyen qui permet à un citoyen lambda, commun des mortels, je ne parle pas de ceux qui ont les moyens d'avoir la télé, qui ont l'électricité, mais ceux-là qui sont partout dans les coins isolés, et marginalisés, qui sont la majorité donc des gens dans ce monde, ben, c'est la radio. C'est pourquoi il faut qu'on puisse renforcer la capacité des gens qui font la radio, qu'on puisse leur donner les moyens matériels importants pour qu'ils puissent faire une couverture sur la question du changement climatique, mais surtout qu'on puisse aussi les former sur le contenu de la changement climatique.
Ancien représentant de l'UNESCO, enseignant et professionnel de la radio, est-il important de célébrer la journée de la radio à ce moment où la technologie a évolué avec toutes les nouvelles plateformes qui font circuler l'information?
En 2012, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a décidé qu'on va fêter la journée de la radio, l'UNESCO avait déjà en 2011 fait la soumission donc de la résolution par rapport à ça. Si l'ensemble des pays membres des Nations unies a décidé donc qu'il fallait fêter la radio, c'est que la radio est un outil très important. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de prophéties sur la radio, sur l'imprimé. McLuhan disait que la galaxie Marconi, donc radio, tout ce qui est nouvelle technologie, va phagocyter l'imprimé et l'écriture. Mais c'est pas vrai. On voit qu'aujourd'hui, ça continue, c'est tout complémentaire. Mais c'est que les ingénieurs aussi et les techniciens ne sont pas dupes. Ils ont profité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils ont profité du digital. Ils ont fait en sorte que la radio devienne quelque chose de plus spécial avec l'apport du digital. On fait le webcast. Est-ce qu'on parlait de webcast avant? On peut écouter radio du cas ici, à Washington, parce qu'on a mis un truc de webcast. Donc, ça veut dire que les nouvelles technologies ne sont pas venues faire en sorte que la radio disparaisse ou la mettre en difficulté. Elles sont venues pour renforcer même sa capacité. Et je crois qu'aujourd'hui, la radio profite très bien du digital et du numérique.
Vous pensez qu'elle s'adapte réellement aux exigences actuelles avec la nouvelle technologie? Si c'est pas ça, qu'est-ce qui doit être fait?
Ben, si c'est pas ça, rien ne peut être fait, parce que regardez un peu l'archéologie de la radio, hein, ça a commencé avant 1920, déjà dans les années 1800 au 19e siècle, il y avait des chercheurs comme les Popov, comme les Henry Hertz, qui ont fait le faisceau hertzien, et d'autres de plusieurs pays qui ont contribué à amener tout ça. Et aujourd'hui, on était à l'analogique. On avait les zones courtes, on avait les zones moyennes. Maintenant, on a un confort d'écoute extraordinaire avec la FM. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression. La radio est une technologie qui va continuer de progresser. On ne peut pas croire que la radio va rester statique, parce que on continue de réfléchir sur comment faire pour que cette technologie-là, qui est la plus accessible, je dis bien la plus accessible par rapport à l'ensemble des autres médias, reste valable et disponible pour la majorité des populations.
Partons de réalité en RDC, quels sont les éléments qui peuvent être pris en compte par les praticiens de la radio pour améliorer l'offre médiatique?
Moi, je crois que là, c'est la formation. Il faut renforcer les capacités des gens. Il faut les formations initiales, certes, mais il faut le recyclage régulièrement. Il faut qu'ils soient au courant, des nouvelles découvertes relative à la radio, et il faut également qu'il reste aussi sur les principes de l'équité, de la déontologie, de l'éthique. C'est-à-dire que on travaille sur les faits, on les triangule, on vérifie les sources.
Ce Jean-Paul Ilboudou, nous vous disons merci.
Je vous remercie aussi.
Par ici s'achève ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Billy Landribitou. La présentation des grâces à Mzati Masanzi. Merci pour votre attention.